Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, H comme Hartley, Hal Hartley, l'insoumis avec Elina Lowenson, Mathieu Germain et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Mais où est passé Hal Hartley? Pour tous ceux qui ont découvert en France au début des années 90 et dans le désordre ses premiers films, L'Incroyable Vérité, Trust Me, Simple Man et Surviving Desire, ce fut une déflagration et le début d'un culte. Son cinéma profondément américain, mais tout aussi profondément imprégné de cinéma européen, témoignait non seulement après Jim Jarmusch et en même temps que Todd Haynes, Todd Solondz et Amos Kolek de la possibilité d'un cinéma américain indépendant, quand ce terme avait encore un sens, mais surtout avec son ton unique, sa ligne claire et ses cadrages obliques, son sens de la répartie vigoureuse et du dialogue percutant et souvent de sourd, sa poétique du décalage, son humour pince sans rire et son burlesque à froid, ses chorégraphies d'outsiders, de parias et d'exilés intérieurs, Hal Hartley nous parlait comme personne d'amour, de sexe, de religion, de la famille et du monde dans lequel nous vivons, individualiste et ultra-libéral. Ses acteurs récurrents étaient nos amis pour la vie et nous aidaient à vivre. Et puis, alors que les États-Unis le découvraient enfin, la France a désaimé Hal Hartley. Le dernier film qu'on a vu sur nos grands écrans, c'était Henry Fool en 1998. Et puis, plus rien. Mais le cinéaste n'était pas resté inactif. Loin de là, 15 films, courts et longs confondus, ont été réalisés depuis. Alors où peut-on les voir? Eh bien sur Internet, où ces réfugiés, par refus de jouer le jeu de l'industrie cinématographique, se trouble fait farouchement indépendant et insoumis, dangereux car sincère. Mais bonne nouvelle, Hal Hartley revient en France par la grâce d'un très beau livre collectif qui lui est consacré, prémisse, on l'espère, d'un retour de ses films sur nos écrans. Avec nous aujourd'hui dans Plan Large, à la recherche de Hal Hartley, son fan numéro 1 et admirateur inconditionnel, Mathieu Germain, qui a coordonné cet ouvrage, et une de ses âmes sœurs et icônes, dont ceux qui l'ont découverte dans Simple Man n'ont jamais oublié la fulgurante apparition, Elina Lowenson. À leur côté, Mathieu Macheret, qui en fin d'émission nous parlera de deux films singuliers, du non moins singulier Federico Fellini, ressorti mercredi à l'occasion de l'exposition que lui consacre la Cinémathèque française, Les Clowns et Répétitions d'orchestre. De la musique, justement, en voilà.
What's that still doing here?
Man, Vic, this car is really twisted.
It was supposed to be done by Wednesday.
Tuesday.
What's wrong with it?
Got me. I thought I fixed it the last time.
Last time?
Yeah, he had it in here last month.
What you're saying is we didn't do the job right the first time.
You got it, Chief.
Jesus Christ, Mike!
Gee, Vic, is something bothering you?
Why did you do it last time?
Hey, back off. I didn't do anything to it, all right?
Yeah, can I help you?
I'm a mechanic. I'm looking for work.
No. No work here. Sorry.
Hey, you know anything about foreign cars?
What's wrong with it?
Clutch, I think.
Worn out?
Could be. It sticks real bad.
2 hours.
What?
I can fix it in 2 hours.
You a priest or something?
What are you still doing here? I told you I ain't hiring.
Look, Vic, he says he can fix this beast in 2 hours. Count him, 2 hours.
Where'd you work before?
Upstate New York.
Upstate New York where?
Ossining.
Where in Ossining?
In prison. I fix cars in prison.
L'incroyable vérité, premier long métrage d'Al Hartley en 1989. C'est pas le premier qu'on découvre en France. Hein. C'était Trust Me, il me semble, qui était sorti en premier. Et puis le succès de ce film a fait qu'en quelques mois, on a découvert tout le début de carrière de Al Hartley, premier long métrage, mais coup de maître. Déjà, on est très frappé, Mathieu Germain, déjà quand on a découvert le film à l'époque, mais quand on le revoit maintenant par la maîtrise incroyable de ce premier film. Il a fait deux, trois courts métrages auparavant, mais d'où vient Al Hartley pour arriver comme ça avec une telle assurance dans la façon de filmer?
Ben, c'est quelque chose que je trouve complètement fascinant parce que, en effet, je veux dire, c'est toute son esthétique est là déjà dès le départ, en fait. Il avait réalisé quelques films auparavant, mais qui ne sont absolument pas connus. The Cartographer's Girlfriend, par exemple, que moi-même je n'ai jamais vu, à mon grand désespoir. Mais Al Hartley, il travaille en ce moment même, puisqu'il travaille à la ressortie de Surviving Desire, qui sera accompagné de tous ses courts-métrages et ses différents films. Mais en effet, sa maîtrise est là dès le départ, dès le premier film, et il y a tout en fait. Il y a ce ton pince sans rire, le côté burlesque lent, même figé parfois, ce qui est assez incroyable. Du burlesque qui bouge pas, ça se voit pas beaucoup. Et tout est là. Et c'est très curieux parce que il ne se destinait même pas à faire du cinéma. À la base, Al Hartley voulait être plutôt peintre. Il s'est mis au cinéma seulement tardivement et de manière assez presque par hasard en fait. Donc je ne saurais pas répondre. Il arrive comme un ovni, il repart comme une comète.
Alors toi, il se destinait pas au cinéma, mais il l'a beaucoup étudié. Il a fait des études de cinéma. Et alors vous publiez dans ce livre collectif en première page les notes d'Al Hartley, notes notamment sur ses premiers films et puis toutes les préoccupations esthétiques qu'il peut avoir. Il cite beaucoup Godard, mm-hmm. Il cite beaucoup Bresson. On a donc des cadrages très godardiens qui sont du Godard des débuts, le Godard d'art très graphique, donc on va avoir ces gros plans, notamment sur les visages, et puis cette envie de considérer l'acteur comme un modèle. Là, c'est le côté Bresson, avec cette diction à froid, alors dont on n'a pas tellement conscience quand c'est en anglais, parce qu'on ne fait pas tellement la différence. Ça serait en français, on le sentirait certainement plus. Mais il y a ce côté, voilà, le texte avant tout, mais minimalisme dans le jeu.
Oui. Cette manière comme ça de demander aux acteurs de ne pas jouer, en fait, je crois que c'est Ilina qui pourra peut-être le mieux en parler. Mais quand on a fait l'interview de Martin Donovan, par exemple, il nous disait qu'au départ, ça l'avait terrifié complètement. Pour lui, c'était l'inverse de son métier, en fait. Hal lui demandait littéralement de ne rien faire, ce qui lui semblait complètement incroyable. Quand il en parle aujourd'hui dans l'interview, par exemple, quand il explique qu'à partir du moment où il a compris en fait quel était le mécanisme de l'Hartley, qu'elle lui donnait un espace dans lequel s'exprimer et que dans cet espace-là, il était parfaitement libre. À ce moment-là, ça s'est complètement débloqué. Mais il a fallu que Martin Donovan voit lui-même le résultat dans un film pour comprendre là où voulait en venir à l'Hartley. Au départ, c'était profondément choquant pour lui, cette idée de... Enfin, je sais pas, pour les acteurs, ça doit être extrêmement étrange, en fait.
Lena Lohenson, même sentiment. Vous veniez du théâtre quand vous êtes entré dans l'univers d'Al Hartley. Alors, il vous donnait comme ça un cadre dans lequel vous pouviez chercher, vous exprimer?
Le cadre est très défini. Et c'est surtout, en fait, dans l'écriture. Et il dirige déjà dans l'écriture. Et souvent, je pensais pas pour le monter sur un pédestal autant que le Shakespeare, mais en Shakespeare, on est déjà dirigé dans la manière d'écriture. Shakespeare dirige. Et Hal, il a quelque chose de cette nature-là. Pour moi, contrairement à Martin, que je connaissais pas cette histoire, c'était quelque chose de très naturel. Parce que je sentais la musique et le rythmique de l'intérieur et la précision qui m'allait très bien. Peut-être en venant d'un théâtre contemporain, d'où c'est comme ça qu'il nous a trouvés au début, certains d'entre nous, c'est souvent dans le théâtre qu'il cherchait, ou qu'il, pas qu'il cherchait, mais qu'il trouvait, qu'il choisissait certains acteurs et après plus tard amis. Et du coup, pour moi, c'était, j'ai eu la chance en fait, parce que quelqu'un d'autre peut-être qui pouvait pas serait viré ou remplacé. C'est passé aussi plus tard dans Simple Man.
Alors on va vous retrouver bientôt dans Simple Man, mais on a déjà un trait thématique qui arrive dès ce film, L'incroyable vérité. On l'a entendu, cet homme Josh sort de prison, il cherche du travail, mais c'est surtout un mécanicien, c'est un réparateur, et des réparateurs, il y en a plein dans les films de Al Hartley, des gens qui sont très bons pour bricoler, un peu moins pour s'insérer dans la société, mais qui sont là pour réparer le monde. Mathieu Germain.
Oui, tout à fait. Et alors ça ressort j'adore énormément dans un film complètement méconnu en France qui s'appelle Meanwhile. Et qui est absolument magnifique, parce que le personnage central est un personnage assez inattendu d'ailleurs chez Hartley. Il est capable de tout faire. Il est capable de réparer une machine à écrire, un aspirateur, etc. Il a écrit un roman de 800 pages. Enfin, il est absolument capable de tout faire. Et rien ne fonctionne pour lui. Et ça, c'est absolument incroyable. Mais, par exemple, quand Hal parle de son cinéma, il dit, c'est tout simple, quand on est menuisier et qu'on fait une chaise, une belle chaise, on a envie de la montrer. Et voilà. Je pense qu'il conçoit vraiment son art de cette manière-là. Pour lui, il s'agit vraiment de créer quelque chose et de le faire bien, tout simplement. Et je crois que ça se ressent parce qu'il y a cette rigueur, il y a cette rigueur extrême chez lui à tous les niveaux. Et c'est d'une rigueur incroyable. Et c'est ça toute la beauté.
Dad, give me $5.
Listen to me, young lady. I've had just about all I'm going to take.
Mom, what's he talking about? Give me $5.
Listen to your father when he's talking to you.
But what's he talking about?
You know damn well what I'm talking about.
Maria, you've been thrown out of school.
I was not thrown out. I quit. Now give me $5.
You little...
John, stop it.
You wouldn't dare.
If I had my way,
John, shut up.
Well, what's going to happen? What's she going to do with her life?
I'm going to get married.
To who?
To Anthony.
Terrific.
Maria, don't be silly. Anthony's going to college.
Only to play football. When he gets out, he'll be going to work with his father doing construction. He'll be pulling in a really bitchin' salary. We'll be, like, totally hooked.
Don't smoke in the house.
Besides, he's got to marry me. I'm going to have a baby.
That's it.
That's what?
I will not have a goddamn tramp living in my house.
Mom, do you hear what he called me? Bastard.
Slut.
Daddy!
Get out!
So there.
John.
Mom, home. Mom?
John.
What happened?
John.
He's dead.
Tout début du film d'Al Hartley qu'il a fait découvrir en France, donc Trust Me, c'était en 1990. Alors ça va très vite chez Al Hartley, hein. Beaucoup d'informations sont données dès le début. Maria, qui est jouée par la première égérie d'Al Hartley, Adrienne Shelley, réclame $5 à son père. Elle lui dit qu'elle a quitté le lycée, qu'elle est enceinte, qu'elle va se marier. Il s'insulte, elle gifle son père, elle s'en va, le père tombe à terre, il est mort. Voilà, il y a un art du début chez Al Hartley qui a étudié dans ce livre collectif que vous avez dirigé, Mathieu Germain. C'est Alexandrine Desnaux qui consacre un article aux Incipit Uppercut, réflexion sur quelques scènes d'ouverture de Al Hartley. Les films d'Al Hartley démarrent très souvent comme ça.
Oui, je vais faire un jeu de mots très facile, mais c'est la première fois quand on a découvert Al Hartley, c'était une claque. Et c'était littéralement une claque. Et c'est cette toute petite gifle, ce petit pouc, de rien du tout. Tout commence comme ça et en effet, ça va très très vite. Ouais.
Et on se tape beaucoup dessus aussi chez Al Hartley. On se repousse. Mais ce sont toujours des combats un peu burlesques. On n'est jamais dans une violence. Alors certains y ont vu l'influence de Prénom Carmen de Godard, où les personnages se tapent sans arrêt. Vous aviez ce sentiment, Elina Lewenson, que c'est un cinéma qu'on a dit très littéraire, très très parlé, mais en fait très physique.
Ah, tout à fait, très physique. Après, moi, je me souviens plus pour moi si je tapais beaucoup, mais en tout cas, c'est physique, burlesque, oui. Je me souviens toute cette séquence à la fin de Amateur, si je ne me trompe pas, quand ils sont tués.
Oui.
Et l'acteur, qui, c'est, je ne sais pas combien de coups de feu, et ça c'est tout physique, on ne voit pas du son, on ne voit pas... Et c'est génial pour moi, c'est ce que je préfère au cinéma.
Alors, ce qu'on entend aussi en termes d'écriture, c'est la vitesse des dialogues de Al Hartley, ça va très vite et ça dit le vrai. On l'entendait tout à l'heure dans L'Incroyable Vérité, quand on demande à quelqu'un d'où il vient, il dit tout de suite qu'il sort de prison. Et le personnage d'Adrienne Shelley va dire très directement ce qu'elle pense. Il y a une clarté comme ça des personnages. C'est ce qu'on aura appelé la ligne claire d'ailleurs chez Al Hartley.
Vous disiez en en introduction que c'était que c'est souvent des dialogues de sourds, et c'est exactement le cas, parce que assez fréquemment chez ces personnages, ils donnent leur vérité entièrement, c'est-à-dire qu'ils s'expriment comme si on avait une lecture de texte, une analyse de texte en fait. Mais ils disent directement l'analyse de texte, ils ne donnent pas le dialogue de base. Et ça, c'est extrêmement frappant, par exemple dans Trust, que j'appelle Trust puisque Trust Me c'était uniquement en France, hein, ça, c'est pas du tout le bon titre. Le film, c'est Trust. Et il y a cette scène incroyable avec Adrienne qui est assise sur un banc, qui on va encore demander $5 d'ailleurs, elle va demander $5 à une inconnue, et ces deux femmes vont se mettre à parler et à raconter leur vie, et elles parlent de manière complètement parallèle. Chacune, cette femme complètement inconnue va commencer à dire, voilà, mon mari part tous les jours à la même heure, il rentre tous les soirs à la même heure, moi je m'ennuie, je suis dans un ennui profond, terrible, etc. Et elle parle côte à côte sans jamais s'écouter. Jusqu'au moment où Adrienne va se rendre compte qu'en effet, cette femme qui lui parle n'a rien entendu de elle, ce qu'elle lui a dit. Et ça, c'est très très frappant chez Alartla, cette manière qu'ont les personnages de se donner entièrement, de dire leur vérité.
Mes personnages se débattent pour communiquer dans cette société envahie par les communications, hein, dira Alartla régulièrement. Et une des grandes questions que pose ce film, Trust donc, et non pas Trust Me comme on l'a connu en France, c'est une question qui va traverser toute la pratique même de Alartla, c'est comment rester intègre dans un monde qui incite à la corruption. Donc on a ce personnage de réparateur de télévision qui ne regarde jamais la télévision parce qu'il considère que c'est vraiment l'opium du peuple, mais qui est très embarrassé quand on lui demande d'intégrer dans ses ordinateurs, dans sa télévision, des pièces qu'il sait défectueuses. Voilà. Et alors, il est pris par des accès de violence et d'envoyer tout balader, mais la question de l'intégrité est une des lignes de force du cinéma de Alartla.
Je crois même que c'est, à mon sens, c'est la qualité qu'il définit en premier, en fait. Il y a des tas de choses que beaucoup de gens essayent de lui dire, de faire, etc., qui seraient possibles pour lui. Non, c'est non, c'est non, c'est niette, quoi. Ted Hope, qui est un très bon ami de Alartla, qui était son producteur à l'origine, essaye régulièrement de le pousser à re-rentrer, à revenir, par exemple, dans la production, je dirais, normale, où il y a des producteurs qui donnent de l'argent, et puis on fait un film, etc. Et Al lui dit non. Tout simplement non. Et alors ça me fait d'autant plus rire, par exemple, que dans le cas de Ted Hope, c'est généralement Ted Hope qui, puisque Alartla donc se finance directement via Internet auprès de ses fans, et généralement quand il manque un petit peu à la fin, c'est Ted Hope qui comble, qui comble. Donc il est resté en fait son producteur, mais bon voilà, ça montre bien à quel point Hal est quelqu'un de parfaitement intègre. Et c'est quelque chose qui est très très important à ses yeux, je pense, et ça se voit énormément dans ses films, il ne parle presque que de ça en fait.
France Culture, plan large sur Alartla avec Elina Lewenson, Mathieu Germain et Mathieu Macheret. Une des scènes les plus cultes de tout le cinéma de Alartla et sans doute de tout le cinéma des années 90, c'est Simple Man, la scène de danse sur Sonic Youth dans Simple Man. Alors c'est très émouvant pour nous de vous voir dans ce studio, Elina Lewenson, puisque c'est vous qui dansez dans cette scène avec Bill Sage et Robert Burke. Vous êtes vraiment là le noyau des acteurs d'Alartla à ce moment-là. Vous vous souvenez de cette chorégraphie, d'autant que c'est vous qui l'aviez conçue?
Tout à fait, je me souviens. Je viens de le faire dans un autre film là récemment d'une amie à moi qui fait une sorte de petit hommage. Donc voilà, je l'ai fait 30 ans plus tard à nouveau. Oui, je connaissais même pas Sonic Youth à l'époque. Et il a mis la
musique. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert Sonic Youth grâce à ce film, hein, notamment.
Mais aux États-Unis, peut-être ils étaient connus, mais moi je connaissais pas. Et puis, il avait pas d'idée de chorégraphie. Il nous a dit, vous avez une idée. Moi j'étais en répétition sur une pièce de théâtre, comme on a appris des mouvements africains. Et je me suis dit, ok, un peu de rythme là, un peu, ok, on fait deux, trois. Et voilà, mais c'est drôle comment l'histoire est créée, parce qu'au moment quand, souvent on ne s'en rend pas compte, quand on est en train de vivre quelque chose, créer quelque chose, être, faire partie d'un certain groupe, et c'est beaucoup plus tard que on se rend compte que, waouh, on était vraiment partie d'un groupe ou d'un événement.
Voilà, et vous avez créé cette scène donc qui est doublement iconique parce que elle a été considérée par beaucoup quand on a découvert le film comme un hommage d'Al Hartley à Jean-Luc Godard, là encore à bande à part la fameuse scène de Madison, et puis on vous voyait arriver avec votre coupe Louise Brooks, votre maillot rayé, on se disait voilà, Al Hartley a trouvé son Anna Karina. Mais c'est vrai que Al Hartley a cette façon d'iconiser ses personnages. On parlait de ces cadrages serrés extrêmement graphique, et lui-même, je crois que c'était dans une interview dans l'Humanité en 98, je vais le citer, Al Hartley disait, quand j'ai rencontré Elina, je savais immédiatement qu'elle allait donner sa touche très personnelle à mon univers à cause de son fort caractère et de son style. Les films sont des produits et les icônes aident à les vendre et à rendre aux spectateurs leur fétiche. Je me soucie des éclairages des visages et de leurs formes, car je suis finalement très américain, très conscient de la manière dont les stars des années 30 et 40 ont fonctionné. Elina Lewenson.
Ah oui, parce que là aujourd'hui, en plus c'est pire parce qu'avec l'âge on veut mieux être éclairé et tout ça, en plus en digital aujourd'hui. Je suis très consciente de ça, je crois, parce que mon éducation c'était avec lui et Mike Spiller à l'époque, le chef opérateur. Et j'étais très consciente et j'étais formée par la sculpture dont la lumière crée. Et qu'aujourd'hui, c'est très très peu un souci pour éclairer les visages. Et en plus, en digital, on parle même pas. Ça veut dire, c'est encore pire. Parce que le digital, c'est comme un laser couteau et ça montre tout et voilà. Donc oui. Et j'ai eu la chance d'avoir cette expérience-là et c'est aussi que les visages sont magnifiés. En plus.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui est aussi, comme vous le disiez, hein, dans sa petite fabrique de films, et il faut bien les vendre aussi, puisqu'il en est, responsable. Et arrive avec ce film Simple Man aussi une thématique qui va traverser là encore tout le cinéma d'Al Hartley jusqu'à aujourd'hui, c'est celle du terrorisme. Il y a le père qu'on recherche, dont votre personnage est la maîtresse qui se sent abandonnée, puis peut-être va-t-il arriver enfin. Et ce père, c'est un ancien activiste probablement du Weather Report ou de groupes comme ça, qui avait fait un attentat en 1968 contre le Pentagone. Et cette question du terrorisme et de la résistance, de l'action armée va être là de film en film, Mathieu Germain.
Ah oui, complètement. Et c'est là d'ailleurs dès les premiers courts-métrages, puisqu'on voit dans Ambition, il y a ce personnage qui traverse les rues de New York et il croise de manière complètement aléatoire, il croise d'un seul coup une femme avec qui porte un béret en travers avec un Beretta, et elle a rien à faire là, quoi, tout simplement. Donc oui, c'est une image qui revient constamment et c'est en particulier très très présent dans la trilogie ensuite, Henry Fall, qui a commencé avec Henry Fall, c'est particulièrement présent puisqu'on se rend compte qu'en fait les écrits de Henry Fall, ces fameux carnets, sont en vérité des codes internationaux recherchés par toutes les polices du monde et que ça fait référence à tous les événements des 50-60 dernières années en somme. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement présent, il y a cette idée comme ça de permanente, de lutte, tout simplement.
Frank's calloused hand worked its way up under her tight fitting skirt and caressed her perfect ass. He pulled her back against himself, and she felt his cock against her like a piece of 2x4 in his trousers.
Listen, lady, you better settle down. You're embarrassing my friend.
Excuse me, can I have another coffee, please?
You can't sit here all day, you know.
I pay for my coffee.
You buy one or two cups of coffee and you sit there all day. Day after day, you take up space.
I bought one of those muffins this morning.
You did not.
I did.
Which kind?
That kind.
Oh, leave her alone. She's harmless.
This is not a hotel.
It had mold on it.
Can I help you? Come on, pal, what'll it be? This is not good. What kind of money is this? What kind of money is this, Frank?
Dutch.
Are you Dutch?
I don't know.
You sound like an American.
Where'd you get this Dutch money?
It was in my pocket.
Look, take your Dutch money and get out of here.
He's hurt.
What?
He's bleeding. Drink some water. Does it hurt?
Yes.
Do you know your name?
No.
Keep still.
Frank, he doesn't know his name.
Are you hungry?
Yes.
A sandwich, please.
Hey, look, Frank. She's got money.
Rencontre improbable dans un café new-yorkais entre une ex-nonne vierge et nymphomane autrice de nouvelles pornographiques jugées trop poétiques par son éditeur, c'est Isabelle Huppert, d'un pornographe amnésique qui vient de se relever presque de la mort, puisqu'on l'a vu dans le premier plan du film allongé sur un trottoir en très mauvaise posture. C'est Martine Donovan. Arrivera bientôt la pornostar que vous jouez, Lina Lewenson, dans ce film très étonnant qui s'appelle Amateur. Donc c'est Isabelle Huppert qui avait contacté Al Hartley pour lui exprimer son désir de tourner avec lui, et si possible dans un rôle de comédie, parce qu'en France personne ne lui permettait d'être drôle. Est-ce qu'il vous a dit, Al Hartley, pourquoi il avait appelé ce film Amateur, Lina Lewenson?
Je me souviens, sûrement on a parlé de ça, mais peut-être c'est Mathieu qui pourrait...
C'est sa volonté de toujours avoir un regard jeune. Quand il en parle avec Godard, par exemple, c'est très amusant parce que Godard lui répond « Oui, vous avez tout à fait raison ». Et Godard explique cette idée très étrange qu'il a toujours l'impression d'être plus jeune que les autres parce qu'il recommence tout à chaque fois, depuis le départ, avec un regard complètement neuf. Et c'était ça la volonté. Le titre Amateur vient de là.
Oui, c'est se méfier de la maîtrise du côté professionnel de la profession, comme disait Godard. C'est quelqu'un qui se méfie aussi des plans préétablis, dit-il. Il a une façon très particulière de filmer le territoire qui est le sien, puisque toute la première partie de sa carrière est filmée à Long Island, le territoire de sa jeunesse, sauf qu'on serait bien en peine de le reconnaître, puisque chez lui, le paysage, c'est le visage avant tout. On parlait de ses cadrages, et il sera contre tous ces découpages clichés qui consistent à faire un plan d'ensemble pour bien situé où on est, puis à resserrer peu à peu sur les personnages. Comment est-ce qu'il envisage ce territoire, Mathieu Germain, qui est le sien?
En effet, pour lui, le paysage, c'est le visage. Et ça se voit particulièrement dans le cas d'Elina. Vous parliez d'amateur auparavant, et juste avant, on parlait du côté iconique des personnages, cette manière de magnifier les visages. La scène, entre autres, du gangbang. Et Elina, d'un seul coup, est figée dans cette pose qui est absolument incroyable,
et
mystique.
Et qui rappelait la Vierge.
La Vierge, tout à fait, voilà, alors qu'on est dans un gangbang. Donc voilà, le visage dit tout, exprime tout, et ensuite, pour le reste, il va exprimer des choses avec des menus détails. Une petite chose va suffire à rappeler ce qu'est un quartier, choses comme ça. On voit souvent, par exemple, les panneaux au bord des rails dans ces films, etc. Et ça suffit pour situer, en fait.
Ce qui lui permet, plus tard, quand il partira à Berlin, de figurer à peu près le monde entier à partir d'un intérieur berlinois.
Tout à fait.
Voilà, mais puisque vous avez mentionné cette scène qui vous a marqué, qui nous a tous marqué, Mathieu Germain, vous n'êtes pas le seul dans le film dont vous avez dit, Elina Lewenson, qu'il rappelle la figure de la Vierge. Il rappelle aussi celle des grandes mystiques extatiques comme Sainte Thérèse et autres. Et la question du religieux traverse, là encore, toute la filmographie de Hartley. On l'entendait dans le premier extrait de cet homme que tout le monde prend pour un prêtre, parce qu'il est toujours habillé en noir. Comment est-ce qu'il vous avait dirigé justement dans cette scène-là, où vous avez c'est une scène de film pornographique, où il y a un gros plan sur votre visage, mais vous êtes en pleine extase, tout à fait mystique.
Voilà, moi je savais pas bang bang qu'est-ce que ça voulait dire vraiment, et il m'a dit, et ce que j'adorais, c'est que de toute façon, j'étais habillée ou avec un corset, voilà. Il m'a dit, juste imagine qu'il y a plusieurs mecs derrière toi. Et voilà. Et après, il m'a montré en fait la photo, une photo d'une sculpture ou un dessin de Sainte Thérèse, pas Marie, Sainte Thérèse. Et il m'a dit, si tu peux à un moment donné finir dans l'extase, comme un petit peu dans, comme dans la photo de la sculpture ou du dessin. Et donc, je suivais ça, et en imaginant qu'il y a plusieurs mecs derrière moi, avec des mouvements, et voilà. Et en extase, bien sûr.
La direction d'acteur, selon Al Hartley.
Where'd you get this?
It's all over the internet. They're even talking about it on the TV news. There's a man from the radio station over at the World of Donuts and a story in the newspaper about some kids burning down a school near Boston.
It all started right here in Queens, Jim, at the World of Donuts about 1 year ago today, when local garbage man Simon Grimm put pencil to paper and began to compose what many have come to regard as vicious, antisocial, and pornographic poetry.
This is outrageous. Measures must be taken. Have we debased our culture to such an extent that a garbage man with a head full of sick ideas is legitimately referred to as a poet, and where the filth he spews can be accessed by any child old enough to turn on a computer? Is this what we have come to? Not the transmission of our highest ideals, but a cynical, atheistic delirium?
In the past 3 days, we have been treated to the usual parade of Philistines. The posturing, the preening, the pomposity of the residual Puritan element in American culture that rears its ugly head every time an authentic artistic voice comes onto the cultural scene. I'm very attracted to what I feel is an authentically pungent and squalid element in it that I think is the authentic trashy voice of American culture. And moreover, I find the kind of imagery of rotten decay that is always symptomatic of any fin de siècle.
Meanwhile, in Rome today, the Pope issued a message of hope for believers in their fight against what he termed the godless and lost. He did not mention Simon Grimm by name, but offered a prayer for the young, whom he described as sadly in need of faith and not the illusion of conviction offered by rock music, drugs, and contemporary poetry. Also in the news today, the United Nations General Assembly.
Les avis sont pour le moins contrastés à la télévision concernant l'émergence de ce poète éboueur au pentamètre iambique spontané. C'est Henry Fool, le dernier film donc d'Al Hartley à être sorti en France. Il avait tout de même reçu le prix du scénario à Cannes en 1998. Et vous dites, Elina Lewenson, dans l'entretien qui est publié dans ce livre collectif sur Al Hartley, que c'est votre film préféré. Al Hartley. Alors c'était peut-être le cas au moment où vous l'aviez dit.
Peut-être, je me souviens pas que j'ai dit ça, mais peut-être la personne qui m'a interviewé a compris ça. Non, c'est pas un film préféré. Je vais dire la vérité là à la radio.
Ah ben non, chez Al Hartley, on dit toujours
j'étais,
la vérité.
J'ai apprécié certaines choses, mais j'étais moins emballée. Mais en tout cas, dans la trilogie de Al Hartley, c'est mon film préféré.
Ah voilà, dans la trilogie. Voilà. Parce qu'il faut dans dire que c'est une trilogie. Il va revenir à ces personnages, vous l'aviez mentionné Mathieu Germain tout à l'heure, avec Fred Grimm en 2006 et Ned Riffle en 2014. Ned Riffle qui est d'ailleurs le pseudonyme d'Al Hartley dans ses premiers films quand il compose la musique. Et il y a quelque chose d'assez beau, ne serait-ce que parce qu'il fait vieillir, il regarde vieillir un jeune acteur qui était celui qui jouait Liam Neeson, qui jouait Ned, l'enfant de Fred Grimm et de Henry Fool à la fin de Henry Fool, et c'est aussi une façon pour Al Hartley de se confronter au film de genre, puisque Fred Grimm sera un grand film d'espionnage, qu'il y a ce film qu'on a pu voir à Cannes, pour ceux qui avaient la chance d'y être, qui s'appelait No Such Thing, qui n'est jamais sorti en France, qui était un film fantastique avec monstres et un côté Godzilla et King Kong aussi dedans. Quel est l'intérêt d'Al Hartley pour le film de genre, là où on ne l'attendait pas du tout, quand on pense plutôt à l'auteur de comédies romantiques décalées qu'il était dans son début de carrière.
C'est franchement passionnant à ce niveau-là, parce qu'il s'empare complètement du cinéma de genre, en déjouant complètement les codes, et il s'amuse profondément. En fait, il utilise les choses pour... il utilise des éléments pour écrire. C'est très amusant, mais... Je lui ai offert en fait un livre de Philippe Solers, qui n'a rien à faire là normalement dans cette conversation, mais bon, tant pis, il y est.
Il est toujours pas arrivé, Philippe Solers.
Non, mais voilà, il est toujours quelque part. Mais c'est amusant parce que Solers fait un petit peu la même chose dans ses films, dans ses livres, pardon. C'est généralement un espion, etc., qui parle du monde et qui commente le monde, et ça permet, disons, ça lui permet différentes choses. C'est que à travers l'espionnage, etc., il peut évoquer tout un tas d'événements géopolitiques, il peut évoquer les guerres, il peut évoquer tout un tas de choses, ou l'économie même d'ailleurs proprement parlé. Et donc il se sert vraiment du cinéma de genre comme d'un outil, je dirais. C'est vraiment un prisme.
Ce qui a pu surprendre aussi les gens qui ont découvert Heinrich Fuhl en 1997, qui pensaient à Al Hartley extrêmement raffiné, l'homme de la littérature, des sentiments exprimés, etc., c'est qu'il y a un côté très organique dans ce Heinrich Fuhl. Ça vomit, ça flatule. Il y a cette scène où Heinrich Fuhl va se vider de son air intérieur au moment où il apprend sa paternité, avec des pets extrêmement sonores, une scène très étonnante qui finit par une demande en mariage. Donc c'est tout à fait surprenant. Vous savez pourquoi il a voulu aller dans cette direction ?
C'est son côté suicidaire. Mais je pense que véritablement, il y a toujours cette... On revient en fait un petit peu au principe de pourquoi appeler le film amateur, pourquoi... Parce qu'il a ce besoin, je pense, de se confronter, de toujours rester neuf, de toujours rester avec un regard neuf. Et donc quand on l'avait casé un petit peu comme ça dans quelque chose d'un peu intellectuel, d'un peu élitiste, je crois que ça l'a un peu emmerdé en fait, tout simplement, et qu'il avait envie de dire merde. Et bon, bah du coup, ça finit en scatologie. Hein, et c'est profondément scatologique. Mais c'est une des plus belles demandes en mariage qu'on ait jamais vues, hein, tout simplement.
Voilà, ça anticipe le monsieur merde de Léos Carax. Je cite encore Al Hartley, j'aime l'harmonie, mais quand je trouve mes films trop lisses, propres et carrés, j'essaie de faire quelque chose de dégueulasse. L'histoire de Henry Fool nécessitait un cadre bruyant et sale.
It's such a long way down and strange. The word becomes flesh. No. The body remains. What? She had traveled light years to get here. And in the vaporous fields of her home star, no one had bodies, or names, or identities. A living thought, a feeling, stretching out in all directions. Not measured, or desired, not home. But here, in the flesh, the revolution had come.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Al Hartley avec Lina Lewinson, Mathieu Germain et Mathieu Macheret. Dernier film à notre programme dans ce plan large consacré à Al Hartley, un film inédit en France, comme tous ceux de la seconde partie de carrière de Al Hartley. Enfin, inédit pas tout à fait, puisque grâce à vous, Mathieu Germain, et aux éditions Leitmotiv, il a été édité en DVD, et c'est sans doute une bonne façon d'avoir une idée du tour esthétique qu'a pris le cinéma de Al Hartley, et notamment de son utilisation de la vidéo qu'il va initier avec The Book of Life, hein, son épisode de la série 2000 vues par qu'avait diffusé Arte, une commande du très regretté Pierre Chevalier. Et l'utilisation de la vidéo par Al Hartley est très étonnante. Il va en faire une image presque tachiste, presque impressionniste.
Complètement. J'ai souvent comparé ces films à des romans photos, parce qu'ils en sont en effet très très proches, et par moments on a l'impression qu'ils s'arrêtent carrément pour faire un tableau. Et c'est tout simplement un tableau, il met l'image en pause, l'action continue, etc., ça pose pas de problème, mais alors là vraiment on est à fond dans ce que disait Elina auparavant, c'est-à-dire cette manière de vouloir chercher la lumière sur les visages, la manière dont ça les sculpte, etc. C'est extrêmement flagrant, et son usage de la vidéo, quand il en parle, il explique pendant longtemps, ça lui a un petit peu passé visiblement maintenant, mais il était obsédé avec l'obturateur, c'est-à-dire le temps de pause. Et c'est quelque chose qui le frappait énormément, cette façon de pouvoir travailler avec la vidéo.
Il va beaucoup utiliser le cadre oblique aussi, ce qui généralement est refusé par tous les opérateurs en disant qu'on a mal réglé le trépied. Là, on est en permanence, voilà, dans cet oblique.
Oui. Oui, cet angle hollandais, comme on l'appelle, c'est quelque chose de... Ça devient vraiment une marque de fabrique, parce qu'à la base, c'était pas là au départ. C'était pas dans Simple Man, c'était pas dans Trust.
Ah non, on avait des cadres très horizontaux.
Exactement, très horizontaux. Et justement, après 2000, c'est-à-dire à partir du moment du début de la seconde moitié, les choses commencent à être un petit peu bancales. Elles commencent à être décalées.
Et elles sont littéralement bancales. Je ne sais pas si tu as vu un petit documentaire qu'il a fait sur sa femme de l'époque, Miho.
Oui, bien sûr.
Où c'est là la première fois où il a utilisé ce cadre oblique. Oui. Et donc, il a repris après.
Oui, tout à fait. Oui.
Comme quelque chose qui...
Et puis il y a un changement d'envergure aussi dans la filmographie d'Al Hartley à partir de No Such Thing et Le Livre de la Vie, là où il s'intéressait plutôt à des intrigues adolescentes, on dirait, la famille, les parents névrotiques pour ne pas dire complètement psychopathes, là il va s'intéresser au monde.
Oui, alors ça, je pense que il est très très clair là-dessus. C'est simplement une question de maturité d'homme. Il avait ses préoccupations étaient plus des questions d'amour, etc. Quand il était jeune, et au fur et à mesure qu'il vieillit, il prend de plus en plus conscience du monde, des enjeux politiques.
Le 11 septembre 2001 est passé par là.
Le 11 septembre 2001 est évidemment aussi. Mais il y a vraiment une rupture. C'est incroyable à quel point cette histoire de rupture de carrière entre le moment où il a disparu en France et maintenant, tout est lié à 2001, en effet. Tout est lié au 11 septembre, qui a été absolument une période absolument atroce pour lui. Il n'a pas du tout supporté les politiques de Bush, par exemple. C'est comme ça, c'est ce qui l'a amené à s'exiler à Berlin pendant des années. Maintenant, il est revenu aux États-Unis, mais il s'est quand même exilé pendant des années. Et cette période-là a été extrêmement difficile pour lui. Et pour moi, en effet, je le vois aussi de la même manière. C'est le monde a basculé à ce moment-là. Tout le monde le sait tous, de toute façon. Je crois que tout le monde se rappelle ce qu'il était en train de faire le 11 septembre 2001. Et le monde a basculé ce jour-là. Et ça se voit dans le cinéma de Al Hartley.
Alors, The Girl from Monday, encore un film de genre, c'est un film de science-fiction. Cette fois-ci, il est tourné en 2005, mais il nous parle très férocement du monde d'aujourd'hui et de la marchandisation de tout. C'est la dictature du consommateur et comment chaque personne devient une valeur boursière dont la valeur augmente s'il se livre à des activités sexuelles non matrimoniales. On a l'impression qu'il nous parle de Tinder bien longtemps avant que ça... que ça existe, et la question d'Internet, qu'on entendait tout à l'heure dans Henry Fool, hein, puisque le succès de ce poète est décuplé par Internet, c'est très surprenant. Quand on lit ce livre collectif à l'Hartley, que vous avez dirigé, Mathieu Germain, il y a une interview avec Jean-Luc Godard, à l'Hartley interview Jean-Luc Godard, on est en 1994, et déjà, avant même qu'on sache que ça va exister, il envisage la possibilité d'Internet comme lieu de diffusion de ses films. Donc le streaming n'existe pas encore, mais Al Hartley sait déjà que ça va être là où il va pouvoir trouver sa liberté, et c'est ce qu'il fait maintenant.
C'est absolument incroyable. Cet entretien entre Jean-Luc Godard et Al Hartley est pour moi complètement sidérant, parce qu'en effet, on est en 94, et que ce qu'il est en train d'expliquer, c'est le modèle participatif qu'on voit à l'heure actuelle. Et il le fait quand même avec au moins une dizaine, quinzaine d'années d'avance sur son temps. Et ça, c'est complètement fou. Et dans la conversation, alors c'est amusant d'ailleurs de voir que, petite ironie de la chose, c'est amusant de voir que Godard lui dit non, ça pourra pas marcher, ce sera pas bien. De toute façon, ce qu'il faut, c'est des gens qui ne se connaissent pas dans une salle réunie ensemble. Et de manière assez amusante, film Socialisme a été par exemple diffusé sur Netflix, et on ne trouve pas de Al Hartley sur Netflix. Donc l'ironie est un petit peu là, mais en effet, oui, il a comme une conscience, une perception comme ça de la manière dont le marché fonctionne, qui est assez incroyable en fait.
Est-ce qu'il y a malgré tout une chance qu'on puisse voir d'autres films inédits d'Al Hartley? Est-ce que vous avez des projets avec Leitmotiv d'édition de certains de ces films?
Pas à l'heure actuelle, mais moi j'ai vraiment évidemment beaucoup. Non, il y a quelque chose qui se prépare. On va bientôt rediffuser Simple Man, justement, qui sera diffusé à Nîmes. Et je crois qu'on sera ensemble à nouveau, Yéna et moi. Donc déjà, on va essayer de commencer par ça, de rediffuser ces films. Et moi, j'aimerais évidemment énormément les voir à nouveau en salle, bien sûr. Et surtout ceux qui n'ont jamais été diffusés en salle.
Mais c'est ceux-là qu'on attend, évidemment.
Oui. I would like to make you smile and make you feel at ease. On the steps by the fountain lights, will you sit and talk to me? I saw him talking to you and I won't do it that way. But that doesn't mean that I don't have a lot to say. There's a million open eyes.
Merci Elena Lowenstein, merci Mathieu Germain. On se quitte sur cette aubade rock de Surviving Desire, le livre collectif Al Hartley, publié aux éditions Leitmotiv, avec une iconographie vraiment magnifique, avec la reproduction de ses carnets de notes, son interview donc de Godard en 1994, des interviews de vous Elena Lowenstein, de Martin Donovan et quantité de textes passionnants sur son cinéma, avec notamment ceux de Bertrand Mandico et de Pacôme Thielman. Leitmotiv qui édite également le DVD de The Girl from Monday et le scénario du film, et en attendant donc peut-être que d'autres de ces films inédits soient édités en France, vous pouvez toujours aller les voir sur www.alhartley.com. Ils y sont tous disponibles. On l'a dit, c'est une de ses grandes influences. Je vous annonce que lundi prochain aura lieu une journée spéciale Jean-Luc Godard sur France Culture. L'ermite de Rolles, absent depuis plus de 5 ans de toute radio, a en effet choisi de se confier sur notre antenne en accordant un entretien inédit de 2h30 à Olivia Gesbert. Il y parle bien sûr de cinéma, mais aussi naturellement du monde d'aujourd'hui, de l'Europe, de la langue, des langages, de la création. Vous en entendrez une large partie dans la grande table, donc lundi, et il y aura aussi des extraits diffusés toute la journée. Et puis le soir même, une dispute spéciale discutera de l'ensemble de son œuvre. L'intégralité de l'entretien sera proposée sur franceculture.fr le 24 avril, le jour où Arte diffusera son magnifique livre d'images, dont on peut toutefois regretter qu'il ne sorte pas en salle pour une expérience collective de gens qui ne se connaissent pas, comme disait Jean-Luc Godard. Al Hartley, il est adepte du crowdfunding pour financer ses films. Et bien sachez qu'une campagne originale de financement participatif, comme on dit en français, a lieu actuellement sur Kickstarter. Il s'agit de contribuer à restaurer la tombe du père de toutes les fictions cinématographiques, Georges Méliès. Sa tombe au Père Lachaise, qui est devenue un lieu de pèlerinage pour les cinéastes et les cinéphiles du monde entier. On y dépose des offrandes pour que vos films aient du succès. Et c'est l'un des derniers endroits pour lui rendre hommage, puisque ses studios et son théâtre ont été détruits depuis très longtemps. C'est son arrière-arrière-petite-fille qui mène ce beau projet. Et vous pouvez l'aider donc à restaurer la tombe de son arrière-arrière-grand-père jusqu'au 22 avril. Le lien est sur le site franceculture.fr à la page Plan Large. Je signale enfin la rétrospective passionnante d'un cinéaste aussi déterminé au moins qu'Al Hartley, d'une détermination sans faille, Jelimir Jilnik, grand représentant de la nouvelle vague yougoslave, la Black Wave, comme l'avait très péjorativement rebaptisé le régime titiste avant de l'interdire complètement. Un cinéma donc résolument dissident, miroir de toutes les marges des Balkans, à découvrir au Centre Pompidou, c'est jusqu'au 12 mai, en présence du cinéaste. Enfin, dans les ressorties de mercredi dernier, ne ratez pas en copie neuve la réédition de Walkover et du Bateau phare, de film magnifique de Jerzy Skolimowski, que nous avions reçu il y a peu dans Plan Large, mais il y a aussi ceci.
Basta! Basta! Suonate con carpo, noi non siamo qui in Luna Park. Sentimento, ma con finezza. Voi avete in mano fiolini. Non trompe!
Scheiße. Ah, flauto. È un mi bemolle. Non mi naturale.
Qui c'è scritto mi naturale.
È un mi bemolle. Guarda bene.
Io sono... No, maestro, davvero è mi naturale.
Correggere allora.
Vabbè.
Sembra lei errori di copista. Strano, no? Clarinetto. No, no. Questo si deve fare delicato, soave. Come ride? Ma questo non comico.
Maestro, io questo passaggio qui lo trovo molto comico.
Io non credo che il compositore lui ha avuto in questo punto qualche intenzione di umoristica. Lei ride inutile?
Stia a sentire.
Ride anche il mio collega.
Sì. È proprio buffo.
A me mi fai ridere te, ma va che faccia.
Eh no, dei clarinetti te ne mando 4. E lo so, figlio mio, anche se te ne serve uno, te ne devi a 4.
Lo fa con le pezze di inverno. Mi
lascia. Mi sono
Sono
Dopo, te lo dico dopo.
La Cinémathèque française a ouvert il y a 10 jours sa grande exposition « Quand Fellini rêvait de Picasso ». On vous avouera qu'on est sorti rien dubitatif de cette rencontre ratée entre les deux grands génies du XXe siècle dans leur art respectif. Mais on se réjouit évidemment qu'elle s'accompagne d'une rétrospective intégrale de ses films et de la réédition en version restaurée de deux de ceux-ci, rares en salle puisque réalisés pour la télévision. Répétition d'orchestre, dont on vient d'entendre un extrait, sans doute le plus politique de ses films, avec l'orchestre en métaphore de l'Italie post-68, le film date de 1978, il est donc contemporain de l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, et puis aussi Les Clowns, qui en 1970 entamait à la fois le versant le plus autobiographique du cinéaste, que Fellini va poursuivre 3 ans plus tard avec Amarcord, et qui entame aussi le côté vrai-faux documentaire en forme d'enquête imaginaire, comme le sera Roma peu après, et aussi répétition d'orchestre. Deux films rares donc, mais sans doute essentiels pour se faire une idée. Je vous cite Mathieu Macheret dans votre excellent article du Monde de mercredi dernier, pour se faire une idée du grand cinéaste moderne qu'il était avant tout, inventeur d'une puissante subjectivité en prise directe avec le tumulte et la confusion de la société médiatique.
Oui, je vais m'auto-valider pour commencer cette chronique. Bon, je suis assez d'accord avec moi-même, évidemment. Mais c'est vrai que l'image qu'on avait de Fellini, c'est surtout celle des grands films carnavalesques, pleins d'humour, de fantaisie, qui passent en revue la frivolité et le pathétique d'une humanité débordante, un peu monstrueuse, qui fait penser souvent aux scènes grouillantes et un peu grotesques de la peinture médiévale. Fellini, dans l'esprit de beaucoup, ça reste... cet artiste qui projetait ses fantasmes sur grand écran, qui délivrait des visions, repeignant la réalité aux couleurs du rêve. Mais quiconque s'est déjà penché sur un de ses films a sans doute déjà ressenti une forte impression matérielle. C'est assez étonnant, impression matérielle qui n'exclut pas le fantasme, bien au contraire. Alors c'est la matérialité des maquillages, des costumes, des décors, qui sont souvent des ruines, matérialité des cacophonies sonores, mais aussi matérialisme de la vision fellinienne. Où tout sort du corps et où tout retourne au corps, dans un cycle de trivialité qui peut être aussi réjouissant que morbide d'ailleurs. La question c'est, Fellini ne serait-il pas un réaliste qu'on ignore et quelqu'un qui, plutôt que de rêver ses images, a surtout décrit la société de son temps sous forme d'un cirque, cette Italie du miracle économique et de ses suites qui ressemblait elle-même à une grande bousculade d'intérêts et de passions charnelles. Alors les deux films que le distributeur Tamassa ressort en salle, Les Clowns et Répétitions d'orchestre, plutôt rare et assez secret dans la filmographie du maître, tombe à pic pour étayer un peu cette hypothèse d'un Fellini plus en prise qu'on ne le croit avec le monde autour de lui. Répétitions d'orchestre, le plus récent des deux, c'est un huis clos d'à peine 1 heure, donc assez peu fellinien sur le papier, mais qui réunit dans un oratoire du XIIIe siècle une formation symphonique qui va se rebeller contre ce chef d'orchestre d'origine allemande, attention, dont les vues artistiques provoquent un véritable soulèvement. Le film est d'un registre assez allégorique et effectivement, comme vous l'avez dit Antoine, on peut y voir une évocation satirique de l'époque, de la radicalisation des mouvements de contestation post-68 art, tout comme aussi un autoportrait détourné de Fellini en créateur face à l'anarchie syndicale qui était sans doute celle de son équipe, doublé d'un hommage un peu siamois, un peu souterrain à son compère compositeur Nino Rota qui s'éteignait la même année et qui signait là sa toute dernière musique de film. Et puis Les Clowns, quant à eux, ils se présentent comme une sorte d'enquête nostalgique sur la tradition clownesque, ses grandes figures, sa difficile survivance à une époque où elle devient assez démodée. Et chose surprenante, Fellini se met lui-même en scène en tant que réalisateur à la tête d'une équipe de reportage qui part à la rencontre des grands clowns encore vivants.
Alors, Tristan, dis-moi, t'es encore velu pour nous descendre en flamme,
Alors, tu aimes tout quoi?
Eh bien, messieurs.
Regarde au plus basse.
Allez, je vous sais pas. Alors, vous mangez ou mangez pas?
Ah oui, bien sûr.
C'est pas trop tôt.
Moi, je crève la dalle.
Stai attento con quella pancia alle mie foto.
Vous savez, Tristan, on est en train de parler sur ce que vous avez écrit sur Antonet.
Si entra subito in argomento, si parla di Antonet, forse il più celebre dei clown bianchi. Nasce subito una violenta discussione perché Rémy sostiene che con Antonet il clown bianco ha cessato il suo ruolo anche comico per diventare soltanto un personaggio autoritario che grida, s'arrabbia e maltratta l'Augusto. Una specie insomma di direttore di pista sospettoso e collerico. Ma Alex, Nino e Maïs sostengono invece che Antonet faceva anche ridere. Anzi, secondo loro, era un cascatore comico ineguagliabile. Rémy sghignazza e dice che non ha mai visto Antonet fare una sola caduta in tutta la sua carriera.
farine.
Alors on entend dans l'extrait, on perçoit un étonnant mélange de registres, un mélange de langues qui est celui de de tout le film. Et chacun à sa façon, répétition d'orchestre d'un côté, les clowns qu'on vient d'entendre sont des reportages, une sorte de reportage au pied levé. Donc comme vous l'avez dit Antoine, deux films tournés pour la télévision. Bien que chacun soit aussi l'objet d'une mise en scène baroque où les personnages se bousculent, rentrent et sortent du champ en pagaille, les propos se télescopent dans un désordre qui est lui-même savamment orchestré. Les clowns va encore plus loin en fusionnant allègrement tout ce que le documentaire peut avoir de fictionnel et inversement, jusqu'au un brouillage complet des cartes entre fiction et documentaire. L'enquête de Fellini et de son équipe prend des tours farcesques de pure comédie, tandis que les numéros de clowns qu'il reconstitue lui-même sous un chapiteau renvoient à des types d'humanité bien réels que tout un chacun pouvait rencontrer. C'est ce que Fellini nous montre dans un montage parallèle sur les routes des villages de son enfance. Le film s'ouvre d'ailleurs sur une séquence très émouvante, pure fiction cette fois, où Fellini met en scène des émotions d'enfance hein, quant à l'arrivée du cirque dans sa ville, qui imprime une forte subjectivité intime à tout le film. Et l'enquête ne vise pas seulement à mettre à jour cette réalité des clowns, mais à faire surgir aussi tout un univers intime. Et en important comme ça dans son cinéma les procédés du reportage, donc de la télévision, Fellini il a inventé quelque chose de nouveau qui était en germe dans son cinéma depuis très longtemps. C'est-à-dire une caméra libre de tout cadre, hors de la fiction, hors du documentaire. Une caméra qui puisse filmer aussi bien le rêve que la réalité, tout simplement parce qu'elle s'identifie au regard du cinéaste, libre de scruter au dehors ou au dedans de lui-même, le plus souvent d'ailleurs sur cette lisière étrange où se mêlent intériorité et extériorité. C'est un point de vue omniscient, omnipotent, un point de vue qui peut tout, qui est à même de dialoguer avec les personnages, de traverser les murs, de voyager dans le temps ou dans la mémoire, et c'est ce point de vue magnifique, cette véritable personnalisation de la caméra que le cinéaste reprendra en effet dans un de ses plus beaux films, Fellini Roma, qui est un grand hommage à Rome. Regard d'une grande modernité qui a su emprunter à la télévision ce qu'elle avait de meilleur, le direct, la captation, le micro-trottoir, l'adresse aux personnages et aux spectateurs pour en faire de formidables outils de cinéma.
Merci Mathieu Macheret. Les clowns et répétitions d'orchestre en version restaurée sont en salle depuis mercredi. L'exposition « Quand Fellini rêvait de Picasso » à la Cinémathèque française, c'est jusqu'au 28 juillet. Vous vous ferez votre idée. La rétrospective intégrale de ces films, toujours à la Cinémathèque, c'est jusqu'à la fin du mois. Et vous ne raterez pas le 25 avril à 19h, la présentation du Satyricon par votre cher Bertrand Mandico, Lina Lowenson, d'autant qu'il sera accompagné par le grand dessinateur Blutch, qui en a donné sa version dans Peplum. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui à la prise de son. Pascal Baudin, l'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Massimo, non pas Fellini, mais Bellini. La semaine prochaine, plan large sur Andrei Konchalovsky, cinéaste russe, auteur de grands films américains, à l'occasion de la sortie des entretiens qu'il a accordés à Michel Simon. Michel Simon qui viendra nous en parler. On évoquera également la sortie du seul film inédit en salle en France, réalisé par l'acteur fétiche d'Akira Kurosawa, Toshiro Mifune. Ça s'appelle L'héritage des 500 000. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.